Et c'est l'appel d'Eva que je prends maintenant. Bonsoir à vous, Eva.
Oui, bonsoir, Sabine.
Ravie de vous accueillir sur cette libre antenne.
Merci beaucoup.
Attendez, je crois vous en faites tomber le téléphone, dites donc.
Voilà, je vous entends bien maintenant.
Moi aussi.
Pardonnez-moi.
Je
reviens vers vous parce que j'avais entendu un témoignage il y a quelque temps déjà. Et comme j'écoute toujours vos propositions de travail un peu, enfin d'exercice, et vous aviez parlé d'un arbre, un arbre où c'est intéressant de se pencher sur cet arbre en mettant qui vous étiez, enfin votre nom, votre prénom, votre date de naissance.
Pour apprendre à se connaître vraiment soi-même, oui.
C'est ça.
Nos envies, nos besoins, oui, tout à fait.
C'est ça. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant, donc j'ai fait le travail. Et vous aviez dit qu'il y avait des choses qui sautaient aux yeux, en général, quand on regardait l'arbre. Et donc j'ai fait plusieurs branches. Et donc, concernant l'amour, alors quand je parle d'amour, c'est les relations amoureuses, de construire vraiment une relation amoureuse. Personnellement, moi, j'ai mis vide. Et ensuite, par rapport à la branche, en fait, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que par rapport à l'enfance, alors j'ai mis plusieurs mots, je pourrais vous le dire si vous le souhaitez, enfin, je pourrais vous les dire, mais le premier mot que j'ai mis, mais sans m'en rendre compte, c'est en regardant après l'arbre, j'ai mis vide également.
Ah oui, et vous n'aviez pas aperçu le lien, consciemment ?
Non.
Non, ouais, c'est ça qui est intéressant avec ce genre de travail. Allô ?
Oui, oui, je vous écoute. Oui, je vous écoute bien.
Comment est-ce que vous avez commencé cet arbre ? Est-ce que c'est venu comme ça, c'est sorti facilement ou ça a été vraiment une introspection, une recherche qui a mis du temps, quelques jours, quelques semaines peut-être ?
Non, c'est venu très facilement en fait.
Ouais.
J'ai fait une branche famille, amour, amitié, travail, enfance, activité. Et voilà. Donc, je trouvais ça intéressant de se poser, de faire le point sur toutes ces branches. J'aimais bien ce côté arbre aussi, le fait de les racines, en fait, de prendre un enracinement. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellée, le côté vide. De faire le lien, en fait, que le vide de l'enfance, je pense, sur les 6 premières années, surtout. C'était de là sûrement que découlait toute cette difficulté à construire vraiment une relation amoureuse.
C'est souvent en lien. C'est la manière dont on nous a appris à aimer ou à être aimé qui détermine après comment on aime ou on se laisse aimer plus tard.
C'est ça.
Est-ce qu'on peut en parler de cette enfance-là ? Qu'est-ce que c'est que ce vide-là que vous avez vécu ? C'était quoi ?
Alors, on habitait, en fait, j'avais des parents qui travaillaient énormément parce qu'ils étaient à leur compte. On était en région et donc, en fait, ils prenaient pratiquement, je dirais jamais de vacances. Et le soir, tous les soirs de la semaine, en général, ils sortaient. Ils se retrouvaient entre amis, enfin... Peut-être pas des amis, plutôt des relations de cette région ou de cette ville en question, où c'était un petit peu, pas les notables, mais des gens qui étaient aussi à leur compte.
Donc, oui, il y avait le médecin. Il y avait ce côté entre soi, quoi.
C'est ça.
Oui.
Donc, en fait, le soir, du coup, il y avait une dame qui nous gardait.
Pardon, quand vous dites dormait, c'est-à-dire vous aviez combien de frères et sœurs ?
J'ai une grande sœur qui a 6 ans de plus que moi.
Donc vous étiez toutes les deux ?
On était toutes les deux. Donc moi j'avais 5 ans, disons que entre. Moi j'ai vécu là entre 0 et 6 ans. Donc disons, partons du principe que par exemple j'ai 6 ans et ma sœur en a 12.
Et donc il y a déjà une sacrée différence, c'est pas la même vie. Hein.
C'est ça.
Et oui.
Et donc en fait, moi je me sentais seule parce que déjà j'étais toute petite fille. Les parents n'étaient pas là et puis ma sœur, elle discutait avec la dame qui nous gardait. Et puis la dame qui nous gardait, qui était très gentille, elle racontait un petit peu ses histoires amoureuses à ma sœur. Donc du coup, ma sœur, elle a pas mal pas trop mal vécu, moins de vide, parce que bon, cette personne lui racontait ses petites histoires, donc ça amusait ma sœur.
Mais moi, comme j'ai aussi, effectivement.
C'est ça.
Alors que vous étiez mis sur le côté.
Un petit peu, parce que bon, j'étais, je pense qu'il voulait pas me raconter, c'était un petit peu, voilà.
Bah, j'étais 6 ans, c'est un peu normal aussi.
Voilà, il pensait bien sûr que j'étais trop petite et c'était tout à fait normal. Donc en fait, dans les autres bulles en fait que j'ai mises, enfin les mots que j'ai mis sur cette branche d'enfance, c'est donc le premier, c'était vide effectivement, c'était sombre, j'ai mis sombre, triste, solitude, beaucoup d'interdits, beaucoup de peur, et il fallait tout souvent obéir en fait.
Peur de qui et de quoi? C'est vous qui avez peur ou c'était vos parents qui avaient peur pour vous?
Oh, sûrement les parents qui avaient peur pour moi, sûrement. Mais du coup, ça a dû générer aussi des peurs chez moi. J'ai souvenir précis Alors, maman déjà me disait, oui, que j'étais tout le temps... je jouais dans mon petit parc, toute seule. Elle me disait, t'étais pratiquement souvent seule dans le parc, mais tu disais rien. Tu jouais toute seule toute la journée. Et aussi, l'histoire d'un bonbon. Enfin, je sais que j'ai failli mourir. Je sais plus où j'avais eu ce bonbon. J'ai failli mourir d'étouffement. Heureusement, mon père est passé à ce moment-là. Il a eu un réflexe incroyable. Il m'a retournée. Et du coup, le bonbon est sorti. Et mon père, en fait, il a ramassé le bonbon et il l'a mangé et il est parti.
Bon.
Donc, il m'a sauvé la vie, c'est sûr. Mais bon, après, ils ont fait comme ils ont pu, hein, avec les moyens qu'ils ont eus aussi avec leurs propres parents. Mais voilà, en y réfléchissant, c'est sûr que j'aurais eu besoin d'être peut-être prise dans les bras, rassurée. Oui. Il y avait comme une forme de dureté tout le temps.
Oui, il n'y a pas eu de maltraitance, mais il y a eu un sentiment d'abandon.
Je ne sais pas. Alors, mon père, effectivement, était chasseur, donc on se retrouvait aussi beaucoup le week-end seul avec maman.
Oui, il y a beaucoup le mot seul, effectivement, dans votre histoire.
Oui.
Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé avec votre sœur, savoir comment elle a vécu? Et comment elle vous a perçu, petite fille?
Non.
Non.
Je sais qu'elle a un peu le même ressenti que moi, quand même, par rapport à cette période, parce qu'on était quand même assez seuls le soir et le week-end, puis on ne sortait pas, on ne faisait jamais grand-chose. Mais par contre, je ne lui ai pas posé la... Enfin, sauf que, bon, avec la dame qui... Bon, et qui la gardait, fait, qui nous gardait, ça, bon, elle lui racontait ses petites histoires, donc de ce côté-là, elle avait un peu mieux vécu. Par contre, je ne lui ai pas demandé quelle perception elle avait de moi, petite fille.
Ça peut être intéressant, le regard oui. d'une grande sœur comme ça. Oui. Donc là, je comprends mieux la solitude de l'enfance. Comment ça s'est transposé ensuite dans vos relations amoureuses? Comment ça a commencé votre vie de jeune fille et de jeune femme sur ce plan-là?
En fait, quand j'étais amoureuse d'un garçon, ma première réaction, c'était de ne pas le montrer, en fait.
De quoi aviez-vous peur?
Je ne sais pas. Enfin, y avait aussi quelque chose de très pudique chez nous. J'avais un père qui était plutôt pudibond. Et puis, tout ça, c'était vraiment tabou. On ne parlait pas de ce genre de choses à la maison. Donc, peut-être que ça aussi, ça a joué.
Il y a bien un moment quand même où une histoire a débuté avec un garçon.
Oui, oui, oui. Donc, il y a eu une histoire qui a débuté et qui a duré 2 ans. Mais que j'ai quitté parce que, en fait... Je pense étant un peu hypersensible, j'avais du mal. Il y avait le poids de la mère qui était là, qui était tout le temps... Enfin, on était très jeunes et puis qui était tout le temps en train de me faire des remarques ou... Enfin, qui n'était pas très agréable avec moi. Et puis, lui, bon, bah, il était très gentil, mais voilà, des fois un petit peu lourd. Et donc, je l'ai quitté.
Et après lui?
Après lui, j'ai été avec un homme où je suis tombée très amoureuse de lui, mais il avait un souci avec l'alcool. Et donc, j'ai été obligée de le quitter aussi. Parce qu'en fait, il me faisait des scènes de jalousie terribles, mais c'était plus maladif. Enfin, c'était maladif et c'était l'alcool, en fait, qui le... Donc, ça n'a pas duré très, très longtemps. Ça a duré une petite année.
Ouais. Donc, effectivement, là aussi, un vide.
Ouais.
Et après lui? Est-ce qu'il y a eu un jour une relation stable et durable?
Non, pas vraiment. Je suis tombée souvent sur des hommes avec un souci avec l'alcool.
Il y avait ça dans votre famille?
Alors peut-être je ne sais pas si maman avait un souci avec ça, mais je sais que maman aimait bien boire.
Est-ce que c'était quelque chose qu'on peut qualifier d'alcool mondain quand elle sortait comme ça dans ses soirées?
Oui, peut-être, oui. Oui.
Donc là aussi, il y a un lien à faire dans cette répétition d'histoire où finalement vous allez chercher quelque chose qui vous est familier quelque part.
Oui. Sûrement.
Quel âge avez-vous, Eva, aujourd'hui?
Moi, j'ai 56 ans.
D'accord. Et donc, vous avez enchaîné systématiquement des histoires non constructives, on va dire.
C'est ça.
La plus longue ayant duré quoi? 2 ans, 3 ans?
La plus longue, peut-être 5 ans, où j'ai été mariée, effectivement.
Ah, vous avez été jusqu'au mariage?
Ouais.
Et là, c'est vous qui avez initié la rupture à nouveau?
Ouais. Ouais. Il avait un souci avec l'alcool et le jeu.
Alors maintenant que vous avez compris ça, qu'est-ce que vous voulez en faire?
Allô?
Oui, j'ai dit...
Ah, pardon.
Maintenant que vous avez compris certaines choses comme ça, qu'est-ce que vous voulez en faire?
Ben, je sais pas trop, en fait. J'avoue que...
Il y a un sacré travail, là, qui se dessine.
Oui.
Et?
Ben, en fait, si je vous appelle, c'est que c'est pas anodin, c'est que je me rends compte que c'est pas normal d'enchaîner comme ça des histoires, comme vous dites, non constructives.
J'aime pas le terme normal. Il n'y a pas de normalité, vous savez. C'est juste que ça dit quelque chose de vous.
Oui.
Ça dit quelque chose. Et si c'est un schéma qui ne vous convient pas, parce que vous souhaitez autre chose dans votre vie, alors il faut en faire quelque chose, effectivement. Mais j'aime pas la notion de culpabilité, de c'est normal, c'est pas normal.
Oui.
Ça, la normalité, qu'est-ce que ça veut dire, finalement? C'est juste que ça ne vous convient pas. Et là, vous comprenez qu'il y a effectivement quelque chose de répétitif et qui vous ramène quand même à une situation ancrée dans l'enfance connue.
Ouais.
À la fois le côté... Parce que quelqu'un qui a des soucis d'alcool ne laisse rarement de la place à l'autre. L'autre, il a souvent besoin de se faire tout petit.
Ouais.
Et donc, quand on n'a pas sa place, on finit par partir. Et c'est un petit peu le schéma que vous avez répété encore et encore et encore.
Ouais.
Mais il arrive à un moment donné, quand on prend conscience de la manière dont on fonctionne, c'est peut-être qu'il est temps de fonctionner autrement. Est-ce que vous avez vu une thérapeute une fois que vous avez commencé à comprendre tout ça, ou c'est simplement un cheminement pour l'instant personnel?
J'ai vu une thérapeute, mais quand maman est rentrée en maison de retraite, en fait. J'ai eu besoin d'en parler parce que j'ai eu une relation très fusionnelle avec elle, très très fusionnelle. Et donc voilà, comme elle est tombée, elle a été hospitalisée, ensuite elle est rentrée en maison de retraite. Donc j'ai eu besoin d'en parler.
Et ça vous a amené vers quoi, ça? C'était juste pour cette transition-là? Il n'y a pas eu un travail plus profond?
Bah, en fait, elle m'a dit, parce qu'on a parlé effectivement de ma mère, beaucoup en l'occurrence, et en fait, elle m'a dit qu'il va falloir déconstruire pour reconstruire.
Oui, j'aime bien l'image. Eva, ce que je vous demanderais, c'est de patienter quelques minutes, si vous le permettez, oui. Les informations
d'accord.
arrivent.
Oui, merci beaucoup.
On marque une pause et on reprend tranquillement notre conversation.
D'accord, merci beaucoup.
Dans quelques minutes, merci à vous. À, oui. À tout de suite, Eva.
À tout de suite.
Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Merci d'être avec nous ce soir sur cette libre antenne. Nous sommes encore ensemble en direct jusqu'à 1h du matin. Ça nous laisse une petite heure encore à partager. Et vous pouvez continuer à nous appeler au 3921. La bonne nouvelle, c'est que je viens d'apprendre que depuis plus d'une demi-heure, presque une heure, le standard était bloqué. En tout cas, ça ne fonctionnait pas normalement. C'est pour ça que vous aviez peut-être du mal à nous joindre. Et c'est pour ça que j'attendais vos appels. Ça y est, le problème est réparé. Donc 3921, vous pouvez nous appeler directement. Aldric et Maxime sont là, prêts à vous accueillir et à vous guider ensuite jusqu'à moi. 3921 donc pour le numéro de téléphone. Et pour les SMS, c'est le 73921, en commençant toujours par le mot nuit.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Eva, vous êtes toujours là?
Oui, toujours.
Bon, vous êtes arrivée avant que le standard ne bloque, donc c'est bon, on a réussi à attraper votre appel.
C'est ma bonne étoile.
On était en train de se dire, avant les informations, oui. que vous avez travaillé avec une thérapeute, mais principalement sur la séparation avec votre maman quand elle est partie en maison de retraite, c'est ça?
Voilà, et sur la relation mère-fille, enfin, de moi avec elle, en fait, et d'elle avec moi.
Oui.
Et quand elle m'a dit, effectivement, il va falloir déconstruire pour reconstruire, mm-hmm. je lui ai dit, ça va être long, mais elle m'a dit oui, et donc je suis parvenue. J'ai pas eu ce courage.
Alors maintenant, c'est très relatif, ça va être long. Ça m'embête toujours un peu quand on met d'office, c'est presque une prédiction négative qu'on donne à quelqu'un d'office. Alors qu'on n'en sait rien. Quelquefois, les gens avancent très, très rapidement.
Oui.
Je trouve ça un peu dommage de vous bloquer. La preuve, c'est que du coup, vous n'êtes pas retourné.
Non.
Et je ne sais pas si vous étiez là quand je parlais de ça l'autre fois, quelqu'un qui me disait « Ouais, mais ça fait tellement longtemps que j'ai des problèmes. » Et à qui je disais « Si vous allez vous promener dans une forêt et qu'au bout du chemin, il y a un endroit magnifique où vous voulez aller et qu'il y a une barrière qui est là, que la barrière soit là depuis 2 heures ou depuis 200 ans, vous allez mettre un coup de pied dedans, ça ne changera pas grand-chose que ça soit là depuis longtemps. » Et on ne peut pas prédire à l'avance combien de temps il vous faudra pour avancer sur un chemin comme ça. Donc, je trouve ça un peu dommage parce que là, vous avez une sacrée matière première, vous avez compris beaucoup de choses. Peut-être que cet arbre-là a été le déclic. Comprendre que si vous ne construisez pas de relations, le mot m'échappe, qui vous font du bien, en tout cas positif, constructif pour vous, ben, c'est que vous répétez quelque chose de l'ordre du passé, donc il est peut-être temps de faire un grand nettoyage.
Et alors d'autant plus que j'ai perdu maman le 4 avril en fait, qui est décédée du coronavirus dans la maison de retraite.
Ah, je suis désolée.
Bah, je vous en prie, il y a beaucoup de familles qui sont dans le malheur par rapport à ça.
Et comment...
Mais peut-être, ouais. Oui, dites-moi.
Comment vivez-vous cette séparation définitive, pour le coup, ce deuil-là?
Alors, je vis bien grâce au yoga. Je fais toute seule du yoga matin et soir. Ça m'a permis de tenir le coup. Mmh. Ce qui était difficile, c'est quand maman était malade parce que j'ai pas pu aller la voir et que j'avais pas beaucoup d'informations. J'avais du mal à obtenir des informations. Donc là, pendant 15 jours, ça a été difficile. Et puis, bon, quand elle est partie, bien sûr, le choc... sans l'avoir revue du tout, ni dans la maladie, ni dans la mort. Ouais. De ne pas avoir pu l'accompagner. Par contre, je me suis beaucoup raisonnée en sachant qu'elle était au bout du chemin. En fait, ça faisait 8 ans que je l'accompagnais parce qu'elle avait la maladie d'Alzheimer.
Ah,
je m'en suis énormément occupée.
Ouais.
Et donc de là, j'avais aucune culpabilité, parce que je m'en suis toujours beaucoup, beaucoup occupée. Et surtout, je savais qu'elle était au bout du chemin. Elle commençait à crier beaucoup. Et ça devenait compliqué pour elle et puis pour nous aussi. Donc oui. J'avais commencé à faire le deuil en fait de la relation parce que c'était plus vraiment ma maman.
Bien sûr.
Ouais. Et donc je suis soulagée qu'elle puisse maintenant se reposer en paix et je sais qu'elle en avait marre. Même si elle avait Alzheimer, elle m'avait dit peu de temps avant j'en ai marre parce que c'était pas drôle pour elle. Elle marchait plus d'être toute la journée sur un fauteuil.
Bien sûr.
Elle était fatiguée, elle criait beaucoup. Donc dans un sens, je suis soulagée surtout pour elle. Et moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de pouvoir faire une étape puisque j'avais commencé à faire le deuil de la relation.
C'est ça.
C'est moins brutal que si j'avais vraiment... comme si elle était comme avant et que du jour au lendemain, je la perde. Là, ça aurait été, je pense, beaucoup plus dur.
Donc, vous êtes dans une forme d'acceptation de ce qui s'est passé.
Alors, je suis dans la forme d'acceptation pour maman parce qu'elle était au bout et je suis contente qu'elle ne souffre plus et qu'elle puisse enfin se reposer. Et en plus, son petit cerveau était malade, donc c'était vraiment très triste. Par contre, voilà, j'ai une colère, pas chaude, mais froide quand même par rapport au gouvernement. Parce que je trouve qu'il y a des choses qui n'ont peut-être pas été formidables pour les personnes âgées. Je trouve qu'ils ont quand même été abandonnés.
Oui, dans l'affolement, je crois qu'il y a beaucoup de décisions qui ont été prises qui sont regrettables.
C'est ça. Oui. C'est ça.
Et qui ont engendré beaucoup de chagrin pour les familles.
C'est ça.
Et ça va créer probablement des deuils qui vont être difficiles à entamer.
Oui.
Encore plus difficiles, oui.
C'est sûr.
Mais quand même, pour en revenir à quelque chose de plus positif, le fait d'être dans cette acceptation peut aussi vous permettre de considérer que c'est un nouveau départ pour vous. Il y a une phase de votre vie là qui se termine, une page qui se tourne, mais c'est aussi l'occasion d'en ouvrir une nouvelle et d'écrire quelque chose de nouveau pour vous.
Oui.
Avec tout ce que vous avez comme expérience maintenant, tout ce que vous avez comme compréhension de vos schémas de fonctionnement. Parce que c'est ça qui est intéressant. Une fois qu'on a compris comment on fonctionne, quand on commence à se connaître, alors on peut un peu reprendre les rênes et arrêter de se dire c'est bizarre, je tombe toujours sur le même type d'homme. Je revis, je rejoue l'abandon, je rejoue la séparation, je rejoue l'alcool en l'occurrence. Et à partir du moment où on a éclairé ça, on n'y va plus. De quoi vous avez envie, vous, dans votre vie maintenant, pour la suite? Quel serait le scénario juste pour vous?
Alors, j'ai la chance d'avoir un métier passion. Donc ça, c'est quelque chose qui me prend énormément et vraiment qui m'aide aussi beaucoup, enfin qui me fait vibrer. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Et c'est vrai que par contre, au niveau relation amoureuse, c'est vrai que, bien sûr, je me pose des questions parce que maintenant aussi, maman est partie et ça, j'y pense, mais je peux pas dire que ça me travaille beaucoup en fait. Je n'ai pas vraiment forcément envie d'une relation amoureuse parce que j'ai eu tellement de choses qui m'ont un peu cassée de par ma faute aussi hein, probablement. Mais du coup, je pense que, bah, comme vous diriez souvent, je pense qu'il y a beaucoup de peur.
Oui.
Beaucoup de peur. Et du coup, je me rappelle de cette phrase que vous aviez dit, il faut lâcher les peurs pour se reconnecter à l'amour. Mais comment on fait?
Ah, ça demande une dose de confiance énorme en la vie, mais on peut se faire aider, ouais. On peut se faire aider aussi par un thérapeute. Et surtout quand vous dites, j'ai plus envie d'une relation, j'entends, je n'ai plus envie d'une relation telle que je l'ai connue.
C'est ça, c'est vrai.
Mais je doute que vous reviviez un jour une relation telle que vous l'avez connue parce que vous savez maintenant les choses. Donc, ça va forcément changer.
Oui, c'est pour ça que je ne voulais plus de relation amoureuse parce qu'à chaque fois, je répétais le schéma. Et que
vous ne voulez plus ce type de relation-là,
non.
Forcément.
Voilà, c'est ça. Exactement.
Mais construire une relation sereine, apaisée dans un échange, dans l'amour, dans la complicité, ça donne envie quand même.
Ah, c'est sûr. C'est sûr.
C'est accessible.
Oui.
Quand on a fait un grand nettoyage.
Oui. Il faut le grand nettoyage.
Et oui. Si on veut, c'est exactement comme dans la vie, si on veut que ce qu'on pose dessus reste propre, il faut que ce soit nettoyé en dessous.
Mmh. Oui.
Sinon, ça n'est que de l'illusion et ça ne dure pas.
Oui.
Mais à partir du moment où vous commencez à vous connaître, vous, à être d'abord en relation avec vous, je le dis très souvent à quel point c'est important le lien avec soi. Quand on est en bonne relation avec soi-même, quand on se connaît, alors les portes s'ouvrent pour être en bonne relation avec l'autre. C'est plus du tout la même histoire. On n'est plus dans une compensation permanente, mais dans une construction. C'est pour ça que j'aime bien la phrase de votre thérapeute.
Oui, déconstruire pour reconstruire.
Ouais. C'est-à-dire que jusque-là, vous étiez plus dans une sorte de réparation systématique.
Oui.
Vous rejouiez quelque chose. Et en plus, évidemment, enfin, quelque chose de pas sympa, de pas agréable pour vous, de pas doux. Et là, vous allez arrêter de réparer, vous allez construire.
Oui.
Et j'ai envie de vous dire, ça prendra le temps que ça prendra. Finalement, ça a pris tellement de temps jusqu'à maintenant déjà.
C'est sûr.
Et puis prendre du temps, d'abord une fois de plus, c'est relatif. Ça ne veut pas dire qu'il faut être arrivé au bout du chemin pour que ça fonctionne. Ça peut déjà commencer dès le début du changement.
Mm.
On peut être en chantier, en construction. Et qu'il se passe déjà des choses, on n'est pas obligé d'avoir tout terminé tout de suite.
Bien sûr.
Je sens que ça mouline là, à l'intérieur.
Oui, et puis j'avais aussi cette question, parce que vous parlez souvent d'hypnothérapie.
Oui.
Et du coup, est-ce que vous pensez que ça pourrait être quelque chose... de bien me concernant ou pas?
Moi, je pense que ça peut être un booster pour vous, que vous pourriez cumuler les deux.
Mm-hmm.
C'est-à-dire faire un travail de fond avec une thérapie plus classique et puis travailler sur cette partie-là, sur ce schéma répétitif, sur la peur, justement. Nettoyer cette peur-là. Allez vous connecter à quelque chose de plus beau que cette émotion-là.
Mm.
Ça peut vous faire du bien en hypnose, tout à fait.
D'accord.
Parce qu'il y a le côté intellectuel qui est intéressant, mettre des mots sur tout ça, sur ce passé, sur ce vide dont que vous mentionniez au début. Et puis il y a le côté émotionnel.
Mm-mm.
Et faire un grand nettoyage symbolique et enlever cette peur pour vous connecter juste à l'envie et à l'amour, c'est ce que je disais. Ça peut être sympa à faire avec vous en hypnose, ouais, tout à fait. Et ça va plus vite. Ça.
Mais c'est ça.
Mais oui.
C'est ce que vous dites souvent. Ça va plus vite.
Oui.
Mm. Et quand vous dites avec le thérapeute, c'est pas forcément une psychanalyste. Ça peut être des échanges, de parler comme ça en échange.
À vous, je pense que ce qu'il vous faut surtout, c'est l'échange. Ça, c'est sûr.
Oui, c'est ça. Hein.
Oui.
Parce qu'en fait, ma psychologue, elle m'avait proposé une psychothérapie et c'est ça qui m'a fait fuir. Elle voulait que je m'allonge sur le divan. Et j'avais
une analyse, alors, peut-être, plutôt qu'une psychothérapie.
Oui, une analyse, oui, pardon.
Mm. Ça, je vous vois assez mal face à quelqu'un qui vous fait tous les quarts d'heure. Je crois que vous avez besoin aussi d'un échange et de retrouver...
Oui.
Spontanément, comme ça, je vous imagine bien avec une femme, parce que vous avez peut-être besoin de retrouver cette complicité-là. Pour parler, mais je sais pas, c'est peut-être une bêtise que je vous dis. Hein.
Moi, personnellement, je préfère avec une femme. Mais j'aurais pas été de... Enfin bon, vous voyez juste, parce que j'aurais pas été comme ça directement vers un thérapeute homme. J'aurais forcément choisi une femme. D'ailleurs, j'avais choisi une femme.
Oui, ça, c'est l'image qui m'est apparue, mais attention, aucune généralité. Hein, parce qu'il y a des...
Non, du tout. C'est juste... je peux pas expliquer pourquoi. Peut-être pour une question de confiance... Parce que comme j'ai une relation fusionnelle avec une mère et puis un père plus absent, donc peut-être c'est ça, je ne sais pas.
Je ne sais pas, c'est juste une impression que j'avais comme ça, mais ça n'a pas forcément de sens non plus, hein, après.
Non.
C'est plus
non,
une
non.
question d'être humain, de rencontre finalement, que de sexe du thérapeute. C'est après, il faut être bien avec quelqu'un et avoir juste envie et sentir que ça avance, quoi. Voilà,
c'est vrai.
Qu'on peut venir poser notre tête sur l'épaule de quelqu'un et repartir en allant à chaque fois un petit peu mieux, un peu plus léger.
C'est vrai. Je ne me sens pas totalement à l'aise avec les hommes.
Ce qui est un peu logique
et
aussi.
Et surtout pour parler de moi, en fait. Pardon, je vous ai interrompu.
Non, je dis que ça peut être un peu logique aussi au vu de votre histoire.
Oui, voilà.
je pense que c'est pour ça.
Écoutez simplement votre intuition là, dans ce domaine-là. Vous êtes libre de choisir qui vous voulez, avec qui vous vous sentez bien.
Mmh. Oui.
Et l'idéal, d'accord, effectivement, serait de trouver une psychothérapeute qui soit ouverte à l'hypnose pour avoir un travail en commun. Soit elle le pratique, ça arrive aussi beaucoup, hein, il y a des psys qui pratiquent l'hypnose. Soit elle comprend et vous faites ça en parallèle.
Mmh. D'accord.
Pour débloquer aussi les émotions et avancer sur deux chemins en même temps pour aller plus vite.
Oui.
Et puis dans quelques temps, vous referez un arbre. Et vous verrez qu'il sera différent. Mais c'est vrai, hein, ça va vous amuser, ça.
Sûrement.
Vous allez voir que les mots, les images, les symboles qui reviennent ne sont plus les mêmes.
D'accord. Bah, sûrement, forcément. Mmh. Il y a eu quelque chose qui sera un peu transformé en moi. Mmh.
Vous êtes sur un beau chemin, Eva, j'en suis sûre.
Mmh. Bah, je vous remercie beaucoup, Sabine.
Avec plaisir. Je me permets de vous embrasser.
Oui, moi aussi, je vous embrasse. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites.
Merci à vous de votre confiance. Au revoir, Eva.
Oui, merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.